Et si vous voulez tourner, ça, on va prendre le chapitre 2, on va commencer au verset 12. Mais avant, juste pour rappeler qu'au moment où l'Épître a été écrite par Paul, Paul était emprisonné à Rome. Faut savoir aussi que l'Église de Philippe est la première Église établie en Europe. Je m'excuse, là. C'était une ville aussi, c'était reconnu comme une colonie romaine. C'était une petite Rome en miniature. Il y avait aussi peu de Juifs qui demeuraient là. Il faut savoir, si on lit dans le récit dans Actes 16, chapitre 16, verset 6 à 40, vous allez trouver que Paul, absolument, qui allait premièrement s'adresser dans une synagogue à Philippe, c'est pas ça qui arrive. Il s'en va vers, se dirige près d'une rivière, le long d'une rivière, où il y avait des femmes qui étaient réunies, qui priaient. Il y avait quelques femmes juives qui se réunissaient. Il y avait une réunion de prière là. Et c'est là qu'il s'est présenté, Paul. Vous savez, pour que les Juifs aient une synagogue, ça prenait un minimum de 10 adultes, 10 hommes pour avoir une synagogue. Alors, c'est ça qui nous fait à penser qu'il y avait peu de Juifs là, qui vivaient là. Maintenant, pourquoi Paul écrit? Mais l'Église de Philippe, malgré qu'il était une Église qui a connu beaucoup de tribulations, d'épreuves, qui avait une profonde pauvreté, on trouve ça dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, elle était très généreuse dans l'œuvre du Seigneur. Elle a toujours soutenu Paul dès le départ. Et même en prison, encore une fois, lorsqu'il était à Rome, ils avaient envoyé Épaphrodite avec un don pour Paul. Elle était d'ailleurs citée par Paul en exemple aux autres églises. Et donc, il est écrit pour les remercier pour leur soutien. Aussi, pour les encourager à persévérer dans la vie chrétienne, c'est-à-dire à garder un bon témoignage, soit personnel ou comme assemblée, à se conduire d'une manière digne de l'Évangile, à demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Aussi, il leur dit, à un moment donné, de prendre garde aux mauvais ouvriers, aux fous circoncis. Prendre garde. Donc, un encouragement à garder une bonne attitude, peu importe les circonstances dans lesquelles ils étaient placés, peu importe l'adversité qu'ils rencontraient, les épreuves, les injustices qu'ils subissaient. Puis, commençant au chapitre 2, Paul écrit que, par exemple, ce qui rendrait sa joie parfaite, c'est de savoir, entre autres, que l'Église marche ensemble, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça nous fait dire qu'il y avait comme un petit hic à l'Église. Il est probable qu'il y avait un commencement de scission. Il y avait comme on sait, il y a deux sœurs qui sont rapportées dans le chapitre 4 qui avaient des différends. Et puis, il y avait ce danger-là de se retrouver à prendre parti pour une ou l'autre, à jouer à la petite politique qui viendrait justement miner l'unité. Alors, pour préserver l'unité, pour garder un bon témoignage et persévérer dans la mission de l'Église, Paul les encourage à avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À marcher dans l'humilité, ce que Adama a sûrement fait allusion la semaine dernière. Par exemple, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. De ne pas juste considérer nos propres intérêts, mais considérer aussi ceux des autres. Et donc, d'avoir justement de considérer notre Seigneur, notre Sauveur Jésus, qui lui s'est dépouillé lui-même, qui a pris une forme de serviteur, qui est devenu semblable à nous, à l'homme, qui a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, il se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce qu'on trouve dans Philippiens chapitre 2, versets 5 et 8. Et ensuite, il y a les sentiments du Père. Parce que Paul a décrit, auparavant, avant les passages qu'on va voir ce matin, il a décrit les sentiments du Père et sa réaction, autrement dit, sa réponse face à l'obéissance de son Fils à son endroit. En réponse à son humiliation, en sa mort, en son sacrifice à la croix pour nous. Et on sait, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ce matin, si vous voulez bien, on va lire le texte de ce matin, Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même, poursuit Paul, si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Ainsi, en tenant compte, en considérant l'obéissance de Jésus puis la réponse du Père qui lui l'a exalté, sachant que Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il va revenir, qu'est-ce que Dieu attend de nous comme Église et comme individu, comme croyant, comme ses enfants, faisant partie de ses enfants, en réponse, justement, à un tel amour pour nous? Ainsi, comment devons-nous réagir? Ainsi, mes bien-aimés, on sait que Paul a écrit qu'il les portait dans son cœur, les Philippiens. Il les aimait beaucoup. Il était parmi les seuls qui avaient à cœur leur situation qu'ils vivaient, ce qu'ils vivaient, les tribulations qu'ils faisaient face, les conflits à l'intérieur, tout ça, ça le bouleversait. Puis il avait à cœur de leur écrire pour les encourager à garder l'unité. Ainsi, mes bien-aimés, il y avait ce lien d'affection qui était privilégié qui existait entre Paul et les Philippiens. Ça vient donc de quelqu'un qui les aime. Alors, si, ça paraît comme si vous voulez avoir des oreilles attentives de quelqu'un puis un cœur réceptif à ce que vous allez dire, il faut premièrement que ces cœurs-là sachent que vous les avez à cœur, que vous les aimez d'une façon spéciale même, peu importe le moment. Parce qu'on sait, dans 1 Corinthiens 13, il est écrit, on pourrait avoir toutes les connaissances possibles, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Comme vous avez toujours obéi, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, dit Paul. On sait que les Philippiens avaient eu le privilège d'être enseignés par Paul. Ils avaient fini comme avoir développé une certaine dépendance par rapport à Paul. Lorsque Paul était présent parmi eux, les Philippiens ont toujours été attentifs, captivés, et ont toujours pris au sérieux ce que Paul leur apportait comme enseignement. Mais les mettant en pratique ce qu'il leur enseignait, et concernant la parole de Dieu. Et si ce qu'il leur dit, c'est même s'il est absent, ils doivent continuer d'obéir. C'est dans le sens qu'il les encourage à lui obéir. Parce que ce n'est pas à lui, à Paul, qu'ils doivent l'obéissance. Parce qu'ils doivent premièrement se soumettre, c'est à Dieu. C'est Paul qu'ils doivent suivre, même si il doit être un exemple, mais c'est Jésus. Peu importe que Paul soit là ou pas. D'ailleurs, ils avaient déjà touché un mot dans Philippiens chapitre 1, verset 27. Il avait dit « Conduisez-vous d'une manière digne, non pas de Paul, mais de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi, non pas en Paul, mais de l'Évangile. » Vous savez, les anciens, les pasteurs, prédicateurs, les enseignants, ils ont leur utilité, ils ont leur responsabilité d'aider, de surveiller, de protéger, d'encourager, d'édifier dans la foi. Ils doivent même être des exemples dans leur témoignage, dans leur conduite. Mais pour ce qui regarde notre propre croissance personnelle, on a chacun, on devra rendre compte pour nous-mêmes devant le Seigneur. Vous savez, il y a deux sortes d'obéissance. Hein? Il y a celle qui est faite seulement en présence des autres. Celle qui, pour plaire aux autres, plaire à l'homme, obéir Dieu seulement en présence des autres, par crainte de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. On a une obéissance qu'on peut appeler d'apparence, une obéissance environnementale. Mais ça, ce n'est pas le genre d'obéissance que Dieu nous demande. Et ce n'est pas le genre d'obéissance que Paul demande chez les Philippiens, ni pour tout chrétien. Il y a l'obéissance faite en l'absence des autres. C'est celle voulue de Dieu. Celle encouragée par Paul. Une obéissance de cœur en réponse à la bonne nouvelle, en réponse à l'amour de Dieu, en réponse à, pour plaire justement à Dieu, pas aux hommes. Celle-là, elle est désirable parce qu'elle va être quoi? Elle va être constante, elle va être durable. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que les autres pensent, elle ne dépend pas de ce que les autres disent. Puis remarquez que le degré d'obéissance d'un enfant, ça ne se juge pas à ce qu'il fait quand les parents sont là. Ça se juge plutôt lorsque les parents ne sont pas là. Et Dieu est toujours présent. Ça me fait penser à Colossiens, chapitre 2, verset 23 et 23. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Et là, il y a une responsabilité qui nous est demandée par Paul et aux Philippiens aussi. Travaillez à votre salut. Mettez-vous à l'œuvre. Mettez votre salut en opération. Manifestez-le dans votre vie. Appliquez-vous à compléter ou à terminer ce qui a été commencé en vous. Travaillez à la délivrance ou à la solution de vos problèmes, de votre vie, de vos combats. Il n'est pas ici question, je ferai remarquer, de travailler afin d'obtenir le salut ou afin de ne pas le perdre. On sait que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Travaillez pour votre salut, mais il ne dit pas travailler pour votre salut, mais travailler à votre salut. De toute façon, si on retourne au premier verset de la lettre de Paul, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les saints. Il s'adresse à des chrétiens déjà sauvés, justifiés. Des gens qui savent déjà que pour ce qui est de leur sécurité éternelle, pour le salut de leur âme, c'est réglé. Christ a payé et ont reçu ce cadeau de Dieu comme un don de Dieu. De toute façon, on ne peut pas demander à un des non-croyants de vivre une vie de croyant. Vous savez, dans notre salut, il y a la souveraineté de Dieu, d'une part, sa grâce, mais il doit avoir de notre côté une réponse, hein? Se repentir et croire. C'est encore là le fruit de l'œuvre de Dieu qui fait en nous. C'est lui qui seul peut nous ouvrir les yeux. C'est lui qui donne, nous dit Paul à Timothée dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 25, c'est lui qui donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et donc, dans ce sens-là, le salut est entièrement par la grâce de Dieu. Pour ce qui est de notre salut, donc, c'est réglé à la croix. Christ a payé, Dieu nous garantit la vie éternelle, notre salut. Mais une fois sauvé, une fois qu'on est régénéré, une fois né de nouveau, pour ce qui regarde notre marche chrétienne, notre vie ici-bas, dans notre conduite, dans ce qu'on pourrait appeler notre sanctification, est-ce qu'on n'a plus rien à faire? Est-ce que c'est Dieu qui doit faire tout? Ou est-ce qu'il y a... Ou bien ça va ensemble, les deux, ensemble? Souvent, dans les lettres de Paul, vous retrouvez que Paul encourage les croyants à quoi? À rester attachés à la grâce de Dieu, à persévérer dans la foi. Fait que du commencement à la fin, notre salut, c'est l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, possédant ce salut-là, Paul, ce qu'il fait, il nous exhorte à quoi? À travailler à notre salut, à le manifester, donc, cette vie qu'on a, nous, en nous. Et Paul est écrit par la, à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « En tournée par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alors, on est justifié devant Dieu à cause de ce que Jésus a fait en dehors de nous, sans aucun changement de notre part. Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et notre justification, ça concerne quoi? Ça concerne le changement de notre position aux yeux de Dieu. Tandis que notre sanctification, la vie chrétienne, c'est un processus continu de changement de notre cœur, de notre personne. La justification nous mène à la sanctification. Les deux s'obtiennent, remarquez, par la repentance et par la foi en Christ. On a commencé notre vie chrétienne. Lorsqu'on la commence par la repentance et par la foi. Et nous continuons notre vie chrétienne de la même façon, par la foi dans la repentance. Martin Luther a écrit « La vie du croyant en est une de continuelle repentance et de foi. » Chaque jour, nous devons nous tourner vers Dieu par la foi et dans la repentance. Et donc, ici, ces passages-là, Paul veut dire à l'ensemble de l'Église qui vit certains problèmes de travailler à votre propre salut. Mettez-vous en œuvre, mettez-vous à l'œuvre, travaillez à la solution de vos problèmes, à la délivrance de vos difficultés. Puis aussi, individuellement, à chacun des chrétiens, mettez votre salut à l'œuvre, manifestez-le dans votre vie chrétienne, dans vos attitudes, dans votre témoignage. C'est important. Appliquez-vous à terminer ce qui a été commencé en vous, l'œuvre de Christ en vous. Le salut, c'est un don. Vous avez une vie nouvelle en vous. C'est votre salut. Ça vous a été donné par grâce. C'est comme si on vous donnerait une mine d'or. Une fois que vous la possédez, si vous voulez soutirer le maximum de d'or possible, puis qu'elle ait prenne la valeur, vous devez vous mettre à l'ouvrage. Rendre visible à l'extérieur ce qui est à l'intérieur pour le croyant. Soutirer de l'intérieur pour la rendre visible à l'extérieur. Comme le cultivateur qui travaille sa terre dans le but de soutirer la meilleure, la plus belle récolte possible. Là, on pourrait faire un bon dîner de poutine avec ça, pour tout l'ensemble ici. Dieu nous a donné salut. Son but, c'est qu'on coopère avec lui, afin qu'un jour, on soit transformé pour être de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus. Cette image qui a été brisée au jardin. Par nous-mêmes seuls, ce n'est pas possible de se conduire d'une façon digne de l'Évangile. Mais il y a une chose qui est sûre, si on demeure attaché au Seigneur. Hein? Pensons à Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas, vous ne demeurez en moi. » Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Sachant que on a un Dieu saint, trois fois saint et juste. Se connaissant nous-mêmes, se méfiant de nous-mêmes, étant conscient, justement, de la présence de Dieu dans notre vie, premièrement, conscient de nos faiblesses, de la puissance et de l'attrait du péché, tout ça fait en sorte qu'on doit craindre, qu'on doit redouter le péché qui déplaît à Dieu. On doit craindre d'attrister Dieu, de lui déplaire, d'avoir une mauvaise influence autour de nous. Il faut prendre conscience de la présence de Dieu, un Dieu qui prend soin de nous. Heureusement, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Dieu nous a donné son Fils pour notre salut. C'est aussi lui qui donne, qui produit en nous le vouloir le faire pour notre conduite, pour notre sanctification. On n'a pas un Dieu impersonnel On n'a pas un Dieu qui est indifférent dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans les moments difficiles qu'on peut traverser. On a un Dieu puissant et vivant qui se soucie de nous. Il œuvre en nous. Et il veut encore se faire connaître encore davantage, connaître Christ et la puissance qui œuvre en nous. Eh bien, il nous a donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui œuvre en nous. Et Dieu utilise trois outils pour œuvrer en nous. La parole de Dieu, premièrement, et nous devons l'apprécier, c'est-à-dire ne pas la mépriser, la considérant non pas comme la parole des hommes, mais pour ce qu'elle est, la parole de Dieu qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour nous instruire dans la justice, pour nous rendre propres à toute bonne œuvre. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, Paul écrit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Alors, le même Dieu puissant, la même parole puissante qui dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est la même qui produit en nous le vouloir et le faire. Elle est unique, elle est inspirée, elle est infaillible. Sans la parole de Dieu, pas d'énergie, pas de force pour notre vie chrétienne, pas de joie, pas de courage, pas de motivation pour agir et accomplir sa volonté. Vous savez, lire et mémoriser la parole de Dieu, ça ne nous rendra pas automatiquement plus fort, plus en santé nécessairement, et même plus productif spirituellement. Parce que, souvenons-nous, les pharisiens étaient des experts, plus que n'importe qui d'autre. Et pourtant, pourquoi ils la lisaient? Pour se targuer d'être des maîtres, pour leur prestige, pour leur position, pour le pouvoir, pour dominer? Lisons-la pour ce qu'elle est, la parole de Dieu qui est utile pour nous montrer, c'est un miroir, pour nous montrer nos manquements, notre cœur. Mais elle est puissante pour changer nos vies. Et c'est pour ça qu'il est important de nous l'approprier. C'est-à-dire, plus que de l'entendre, plus que de la lire et de l'étudier, c'est premièrement, puisqu'elle est vivante, elle s'adresse à nous, chacun de nous personnellement. Donc, on doit l'approprier pour nous comme faisant partie de notre vie. C'est notre nourriture spirituelle. Aussi, on doit l'appliquer. Hein? On connaît très bien ce passage. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi des libertés, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a aussi la prière. Avant de lire la parole de Dieu, et en lisant la parole de Dieu, de la lire, afin que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Il y a aussi la souffrance. Vous savez, Dieu seul peut ouvrir nos cœurs. On peut lire 100 heures par semaine, mais sans que ça touche notre cœur. Si on ne l'approprie pas, si on ne sait pas, si on n'est pas conscient qu'elle s'adresse premièrement à nous. L'épreuve, la souffrance, les difficultés, c'est aussi un autre outil que Dieu emploie. Changer, nous changer dans notre vie, pour notre maturité spirituelle. Dieu œuvre dans la vie de ceux qui souffrent pour sa gloire, comme Paul. Pierre aussi, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, il est écrit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Et c'est ce qu'a expérimenté Paul tout le long de ses voyages missionnaires. Que ce soit en prison à Rome, ou si ça ne l'empêchait pas, même à Philippe, souvenons-nous, de prier puis de chanter les louanges du Seigneur alors qu'il était en prison là. Dans des situations difficiles, il a continué à se conduire d'une manière digne du message qu'il apportait. Il est toujours demeuré attaché à son Seigneur et à ses promesses. Et quand il y a eu un grand tremblement de terre, à Philippe qui a fait en sorte que toutes les portes se sont ouvertes, puis les prisonniers ont sorti, c'est pas le tremblement de terre qui a fait que le joaillier est venu à la foi. Le tremblement de terre l'a quasiment poussé à vouloir se suicider. C'est plutôt quoi? C'est plutôt le témoignage de Paul. C'est plutôt les mots d'encouragement de Paul qui a dit « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Et puis ces paroles-là, attentionnées de Paul envers le joaillier, ont brisé son cœur. On fait en sorte qu'il s'est jeté, tout tremblant aux pieds de Paul puis de Silas, dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et Dieu il a un plan pour chacun de nous. Il n'y a pas deux fleurs pareilles, il n'y a pas deux flocons de neige pareils, puis il n'y a pas deux chrétiens pareils. Mais on est tous appelés à être transformé, à se laisser transformer par le Seigneur Jésus pour être justement, devenir de plus en plus semblable à l'image de Christ. Même si on a tous des appels différents, des dons différents. Alors, la parole de Dieu, c'est essentiel, c'est notre nourriture spirituelle. La prière, c'est reconnaître et être reconnaissant envers Dieu aussi, lui apporter nos besoins, lui dire nos soucis, partager tout ce qu'on ressent en dedans de nous-mêmes. C'est notre Père. Il faut se présenter devant lui en Jésus-Christ. Apporter nos besoins et la souffrance, bien, c'est le lot de tous. Un jour ou l'autre, on passe par des moments difficiles. Alors, c'est des outils que Dieu utilise pour nous transformer. Dieu seul peut produire en nous le vouloir et le faire. Ce désir de continuer à le servir dans l'humilité, dans l'unité, dans la joie, dans la paix. Tout ça selon son bon plaisir. Paul a écrit, hein? Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dieu peut faire, Éphésiens 3, verset 20 et 21, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Maintenant, quand on parle de témoignage, de maintenir un témoignage conforme à notre appel, il décrit Paul en continuant à dire « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » C'est notre attitude, ça nous parle. C'est important pour ne pas gâcher notre témoignage. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes plaint? Vous avez de la misère, vous vous souvenez peut-être? Ça fait 2 mois. Est-ce que c'était la semaine passée? Lundi passé? Jeudi passé? Peut-être un matin? Ah, c'est lui qui parle un matin? Quelque chose que vous ne trouvez pas à votre goût? Ou non, vous ne trouvez pas l'atmosphère idéale? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait dire « Je suis guéri, j'ai la victoire, je suis libéré de ça. » Parce que pour dire le vrai entre nous, là, on a cette facilité de nous trouver, par exemple, devant un garde-robe rempli, en grognant, en disant « J'ai rien à me mettre un matin. » Ou se retrouver devant le frigidaire, puis dire « Plein, puis dire « Il n'y a rien à manger un matin. » Quand on est occupé, on se plaint d'être trop occupé. Quand on n'a rien à faire, on se plaint que c'est plate. Quand il fait chaud, on se plaint qu'il fait trop chaud. On aimerait tous qu'il fasse plus froid. Quand il fait froid, on se plaint qu'il fait trop froid. Puis on aimerait se retrouver dans le sud, au soleil, les deux pieds dans la mer. Puis savez-vous quoi? On est même capable de se plaindre des autres qui se plaignent. Il faut le faire. Puis il y a dans ce texte-là cet appel à faire toutes choses sans murmure et sans hésitation. Peu importe où on se retrouve, peu importe ce que vous faites, peu importe l'heure de la journée, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, peu importe ce que vous ressentez à l'intérieur, faites tout sans un mot de plainte, sans parole de contestation. Aïe aïe. Imaginez rien qu'une journée. Rien qu'une petite journée sans la moindre plainte. Imaginez-vous le matin vous réveiller sans ressentir la pression d'avoir à faire toutes les choses que vous n'avez pas vraiment le goût de faire ou que vous ne tenez pas à faire. Puis là, la journée se déroule comme ça. Imaginez-vous en fin de soirée couché sans avoir eu de plainte dans votre cœur au sujet de la journée que vous venez de passer. Imaginez une vie entourée d'autres personnes sans se plaindre d'eux, même s'ils voient les choses, ils comprennent les choses différemment, ou ils ne font pas les choses comme vous aimeriez que vous les fassiez. Imaginez ça. Être un parent qui ne se plaint pas de ses enfants, les enfants qui ne se plaignent pas de leurs parents. Imaginez un travailleur qui ne se plaint pas de son boss, un boss qui ne se plaint pas de ses ouvriers. Imaginez une vie sans plainte. Maintenant, réveillez-vous, on n'est pas rendu au ciel. Mais entre nous, là, il n'y a pas grand-chose qui illustre plus le besoin que nous avons tous de grâce. Parce que ce petit péché qu'on peut penser, là, en réalité, là, pas du tout un petit péché. Parce qu'on sait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, ça veut dire qu'en maugréant, en se plaignant, on fait juste révéler ce qui se passe réellement en dedans de nous. Maintenant, les deux mots sont intéressants. Le mot murmure et grognement, ça a plus à voir au côté émotionnel d'une plainte sourde, là. Un grognement, un soupir d'insatisfaction. Vous savez quoi? Un déplaisir secret. On appelle ça aussi marmonner. C'est comme le bruit agaçant de ces drones-là. Vous savez, c'est ces oiseaux-là, ces robots téléguidés là, qu'on entend parler encore de plus en plus. Là. C'est les nouvelles armes de plus en plus qui sont utilisées dans la guerre antiterroriste. Il paraît qu'il n'y a rien de plus stressant que le son que ça diffuse. Ah, ils sont bien petits, ils sont trop hauts, trop petits des fois pour les voir, bien souvent, la plupart du temps, mais on peut les entendre. Hein. Les habitants de Gaza les appellent les ananas avec un Z. Puis les habitants du Pakistan les appellent les bunganas. C'est spécial, hein? Le bruit qu'ils font ressemble au bourdonnement des abeilles. Et il n'y a pas grand-chose de plus agaçant, il paraît, que ça pour l'oreille. Et nos murmures, nos grognements d'insatisfaction font comme nous identifier avec ces drones-là d'une humanité qui est insatisfaite, qui est déchue. Vous savez, les murmures d'insatisfaction, les plaintes, les mauvaises pensées, les soupirs, ça amène à quoi? Le mot, c'est dialogismos, hésitation dans le grec. Je ne suis pas un connaissant, mais j'ai regardé, j'ai étudié ça un peu. Les doutes, les argumentations, les disputes, ça mène à la division, aux disputes, à la division. Savez-vous ce que ça veut dire aussi? Les premières choses que nos murmures nous donnent comme indication en dedans de nous, ça veut dire, moi là, je mérite mieux que ça. Nos murmures, ça touche tout ce qui nous tourne autour de nous, comme si on était le centre de tout, le centre de l'univers. Nos murmures, ça révèle ça. Ça dit, quelqu'un comme moi, là, ne mérite pas que telle ou telle chose m'arrive. Je ne mérite pas ça. Quand on se retrouve devant un frigidaire plein, puis qu'on se plaint qu'il n'y a rien à manger, là, bien, ça dénote quoi, ça? Ça révèle qu'une chose, c'est que on ne peut même pas voir, on est aveuglé, on ne voit pas les bénédictions qu'on a, tandis que plein de gens dans sa planète qui se réjouiraient de voir toute la nourriture qu'il y a dans le frigidaire et avoir à manger ça. Nous, on se plaint qu'on ne se trouve pas. Ça veut dire qu'on ne trouve pas dans le frigidaire ce qu'on aimerait manger. C'est ça que ça veut dire. Il y en a des choses à manger, mais pas ce que j'aimerais manger. En réalité, c'est quoi? ça démontre un très gros égo. Hein? Je mérite mieux, moi. Pourquoi qu'il m'arrive, par exemple, pourquoi c'est moi qui ai tombé malade? Pourquoi ça m'arrive à moi? En plus, chacune de mes fautes, ça devrait être toléré. Tous mes besoins devraient être comblés. Tout ce que je ressens devrait être pris au sérieux parce que je suis moi, là. Je mérite mieux. Je m'aime, moi. Dieu m'aime, tu m'aimes, il m'aime, nous m'aimons, vous m'aimez. Ça dévoile autre chose. Ça veut dire que moi, si je mènerais là, dans la vie, si c'est moi qui serais le boss, là, ça ne se passerait pas comme ça. C'est comme si on mettrait Dieu, là, on l'amènerait dans notre cour de justice, on le jugerait, on jugerait qu'il manque de sagesse, qu'il est infidèle, qu'il n'y a pas d'amour. Parce que c'est ça que ça veut dire. Ça reflète nos ambitions personnelles, peut-être une recherche de gloire personnelle. Peut-être qu'on recherche justement toujours nos propres intérêts. Mais si on serait comme aux Oscars, là, dans la catégorie des murmures les plus longs et les plus soutenus, il faut se rappeler du peuple d'Israël. Ils ont murmuré tout le long du chemin qui les menait d'Égypte au mont Sinaï, puis à la paix promise, pendant 40 années dans le désert. Puis en réalité, lorsqu'ils murmuraient contre Moïse, Moïse écrit dans Exode, chapitre 16, verset 8, « L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Quand j'ai fait l'étude de ces passages-là, j'ai été confronté avec ça, ces murmures-là que j'ai dans ma vie. Ça fait partie de ma vie. Ce n'est pas un petit péché, parce que ça nous met comme à la place de Dieu. Et pour les Philippiens, les murmures, les hésitations que Paul fait allusion peuvent avoir été engendrées ou pris naissance, il y a eu des différends, causé des différends, des disputes. Peut-être aussi que c'est parce qu'ils vivaient la persécution, des tribulations, des difficultés, l'adversité. Ils traversaient des temps difficiles. Mais n'empêche que ces murmures-là, ces hésitations-là, Seigneur, lui, ce qui lui plaît, c'est qu'on soit contente, qu'on apprenne à se contenter et à compter les bienfaits qu'il nous donne à chaque jour. Quand nos enfants se chicanaient, des fois, vous pourriez leur demander, quand ils étaient jeunes, on leur disait, allez dans votre chambre, puis prenez un papier, il était à l'âge où vous pouvez écrire, puis écrivez une liste des bienfaits que vous avez qui viennent de Dieu. Puis vous savez, l'attitude a changé. Maintenant, ici, il continue Paul en disant, « Afin que vous soyez irréprochables et purs. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, « afin que vous soyez irréprochables et purs. » Il n'est pas question ici d'être parfait. On doit rechercher à vivre une vie parfaite, d'être saint, car Dieu est saint. Mais on doit lutter, tandis qu'on est encore ici-bas, avec le péché. Il parle plutôt de la réputation. Que notre réputation ne vienne pas en contradiction avec le message qu'on doit porter. Vous annoncez l'Évangile, un Évangile glorieux, gracieux, d'un Dieu aimant, mais vous êtes amer, toujours malheureux, insatisfait, vous plaignant souvent de tout et de rien. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, est écrit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et 1 Pierre 3, 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est comme l'évangélisation à l'inverse. Après, comme si on dit, ah, « Je te comprends pas, on a le même boss, mais toi, tu es capable de garder ton calme, tu te plains pas, tu es toujours de bonne humeur, c'est quoi l'affaire? » Ou « Ah, j'ai jamais eu un voisin comme ça, toujours de bonne humeur, il est gentil, il est serviable, pas un mot plus haut que l'autre, je comprends pas. » Même chose à l'école, ou à l'université, au cégep. Peu importe où ce qu'on est, notre vie notre conduite, notre témoignage parle. Il parle beaucoup plus fort qu'on pense. Et il y a aussi notre identité. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Paul rappelle aux chrétiens qui ils sont. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et vous êtes ambassadeurs de la famille de Dieu. D'autres, il nous arrivait aussi à dire à nos enfants qu'il y avait une sortie, peu importe laquelle, comporte-toi bien. Fais attention aussi avec qui tu tiens. Et sans le verbaliser, ça voulait dire conduis-toi de façon à ne pas nous faire honte. Parce que les enfants représentent notre famille. On est chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. C'est notre identité. Notre conduite, nos actions, nos paroles, nos attitudes définissent à quoi ressemble la famille. Être enfant de Dieu, ce n'est pas juste comme le dimanche ou pour. C'est notre identité à tous les jours, peu importe l'endroit, le temps, le moment où Dieu nous place, dans lequel on est placé. Et on sait aussi une chose. Oups, je vais revenir. On vit dans un environnement hostile, au milieu d'une génération perverse et corrompue, dont on faisait partie. On comptait parmi les leurs, avant que Dieu se révèle à nous par sa grâce. Phil Ryken a écrit ceci, « Ce monde est comme un chariot d'épicerie. » Vous savez qu'il y a un chariot d'épicerie qui a été frappé, là, puis là, vous vous trouvez à prendre parmi les chariots pour aller faire votre épicerie, un chariot qui bloque, qui est brisé, là. Là, à un moment donné, il s'en va, il frappe les étagères un peu partout, là. À vrai dire, il ne fonctionne pas comme il devrait. Mais ce monde-ci ne fonctionne pas comme Dieu voudrait qu'il fonctionne, comme il devrait. L'autre jour, je me trouvais à un coin de rue, et puis il y avait, tu sais, vous savez, les squeegees. Je t'ai arrêté, puis il n'a même pas eu l'occasion de me le demander. La lumière est tournée verte. Des fois, on est dit, oh, on est bien content. Mais par la suite, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune-là pour en être rendu jusqu'à là? Quel mauvais choix! Puis là, ce que je me suis rendu compte par après, c'est que ce jeune-là représente ce monde brisé sans Dieu. Ce monde brisé qui vit sans tenir compte de Dieu, indépendamment de Dieu. Puis cette brisure-là, là, vous savez, n'est pas seulement dans le cœur de ce jeune-là, elle peut être aussi dans le cœur d'un riche avocat, d'un riche homme d'affaires, d'un joueur de hockey célèbre, de notre voisin, de nos parents, de nos amis, comme nous autrefois. Alors, là maintenant, Paul parle de notre appel, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Briller, ça veut dire comme resplendir, se manifester, rendre visible la vie de Dieu en nous, la rendre visible, que frappe le regard, qu'on soit se distinguer de ce monde-là, qu'on ressorte de l'ensemble. C'est ça que ça veut dire. Les flambeaux, c'est comme les étoiles, les astres du ciel, le soleil, la lune, éclatantes. Briller comme les flambeaux. On voit l'importance d'être attaché, de ne pas s'éloigner du Seigneur pour cela. Demeurez en moi, dit le Seigneur, pour porter du fruit. C'est lui qui nous énergise, c'est lui qui nous éclaire pour que l'on brille. Si on s'éloigne de sa parole, notre lumière va s'affaiblir. Pour briller, pour porter le témoignage de Dieu au monde, il faut premièrement le porter dans notre cœur. Avec l'aide de Dieu, le mettre en action dans nos vies. Le vivre, puis l'annoncer, le proclamer, le présenter autour de nous. Ce n'est pas garanti qu'on va briller si on lit la Bible. Puis on la mémorise, mais c'est garanti que si vous ne la lisez pas, vous ne brillerez pas fort. John Piper a écrit ceci, « Pensez à la parole de Dieu comme étant le carburant sans lequel votre lampe ne peut pas briller, ou comme étant la nourriture spirituelle sans laquelle votre âme ne peut survivre. » au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Le témoignage de l'Église, c'est important. Puis on peut s'imaginer être au-dessus de la région, à vue de vol d'oiseaux le soir, puis voir l'Église au cap, sa rue Lupien, puis la lumière, là, tu sais, comme au Forum ou au Centre Bell aujourd'hui, où là, tu vois la lumière là, avec les joueurs. Là, c'est l'Église, puis là, elle rayonne. Oui, il y a ça. On peut penser à ça comme ça. Mais il y a aussi question là, sûrement, premièrement, de notre témoignage personnel. Puis le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que sa lumière, autrement dit, elle soit un peu partout, afin que ce soit à votre travail, à l'hôpital, au centre commercial, que ce soit l'après-midi, le soir, à l'école, au cégep, à l'université, qu'il y ait la lumière, des lumières de vie transformées. Des gens qui ont une conduite différente, digne de l'Évangile et digne du message à annoncer et à proclamer dans le monde. Mais un témoignage, une conduite digne de l'Évangile, ça doit découler d'un cœur qui est rempli par la joie de notre salut, de notre communion avec lui. Mieux connaître Jésus pour mieux le faire connaître. Quand notre cœur est rempli de reconnaissance envers lui pour l'amour qu'il a déployé envers nous, tout ce que je peux faire, c'est de désirer le suivre encore davantage. Celui qui nous a tant aimés. Puis, Dieu voulant, demain matin, lorsque je vais me lever, je sais que mes voisins ne sont pas parfaits. Je sais que chez nous, tout ne sera pas parfait. Je vais avoir encore des factures à payer. Je ne sais pas de quoi va être fait demain, parce que les journées ne se ressemblent pas. Mais il y a une chose que je sais, puis ça ne changera pas, c'est que Dieu va m'aimer encore demain. C'est que Dieu va être encore dans ma vie demain. Parce qu'il ne change pas, lui. Puis quand je vais m'élever demain, je vais pouvoir me réjouir de le connaître. Me réjouir d'être pardonné en Jésus-Christ. Me réjouir dans le salut qu'il m'a donné. Pas parce que je suis fin. Mais parce qu'il me fait voir la misère de mon cœur un jour. Et ce qui révélait sa personne. Son sacrifice à la croix. Hey, c'est merveilleux, puis c'est spécial. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Puis on a raison de se réjouir, peu importe ce qui arrive. Parce qu'on connaît celui qui change tout. On connaît celui qui est en contrôle de tout. On connaît le Tout-Puissant. Il est notre ami, mais il est notre sauveur, il est notre Dieu. Puis cette joie-là, cette bonheur de connaître Dieu, puis le fait de le connaître de plus en plus devrait nous motiver à nous conduire justement d'une manière digne de l'Évangile. D'être des témoins, des étoiles dans le ciel de cette région-ci, où plein de gens qui, malheureusement, ne connaissent pas le Seigneur, sont en train de périr. Il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17, toi. Donc, Dieu nous a choisis pour faire partie de son peuple, et il nous a dispersés, il nous disperse un peu partout. Parmi cette génération qui est en ce monde, qui est sans lui, dans les ténèbres, afin qu'un peu partout sa lumière brille, la lumière de la gloire, de la grâce de Christ, qu'elle puisse briller, que la parole de vie soit annoncée, premièrement, par nos vies, puis afin que d'autres aient le goût aussi de connaître le Seigneur Jésus, celui qui fait toute la différence dans nos vies. Et Paul continue. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc, portez la parole de vie, la parole de Dieu, l'espérance d'une vie éternelle en Jésus-Christ, l'annoncer, ça demande donc de persévérer humblement avec Dieu, dans l'obéissance au Seigneur. Puis ça, il faut absolument que Christ vive en nous. Parce que la parole de Dieu, en fin de compte, ce n'est pas qu'un livre. La parole de Dieu, c'est une personne qui vit dans le cœur de celui qui croit. Et là, Paul regarde dans l'éternité future, au jour de Christ, quand Jésus-Christ va revenir. À son retour, au moment où l'œuvre de chacun sera rendue visible, quand l'or, l'argent, les pierres précieuses produites par l'œuvre de Christ en nous seront rassemblées et manifestées, et que tout le bois, le foin, la chaume, l'œuvre de notre chair sera brûlée. Et l'œuvre de Christ en nous, c'est d'avoir fidèlement porté sa parole, de lui avoir obéi et de plus en plus se laisser transformer pour être rendu justement de plus en plus semblable à lui, avec comme résultat la joie et la réjouissance qu'on a d'être compté parmi son peuple. Lorsqu'il va revenir, on va pouvoir se réjouir d'avoir accompli ce qu'il nous a demandé. Alors, persévérez, dit Paul aux Philippiens, dans la foi en Christ. Persévérez dans la parole. Travaillez, forcez-vous à garder l'unité dans le lien de la paix. Ayez une conduite digne de l'Évangile. Puis là, Paul dit, quand j'apprendrai que vous aurez persévéré dans la foi, je vais être fier, je vais être heureux, je vais me réjouir parce que je saurai que je n'aurai pas couru en vain et je saurai aussi que vous avez compris, vous avez bien compris le message. Et là, Paul, qui souffrait pour l'Évangile, puis qui voyait sa possible exécution, il dit, « Même si mon sang est versé en libation pour le sacrifice puis le service de votre foi, de savoir que vous persévérez, portant la parole, continuant en portant la parole, marchant en lui, proclamant aux autres l'Évangile, je vais pouvoir mourir en paix avec la joie dans mon cœur. Puis si un jour vous apprenez que je suis mort dans cet état-là, vous pourrez vous aussi vous réjouir avec moi. » Puis ça me fait penser au Seigneur Jésus, c'est pour conclure. Dans Hébreux, qu'est-ce qu'il dit du Seigneur Jésus, Hébreux 12:2? « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et quelle joie Jésus avait-il en vue? La joie de voir des vies d'hommes et de femmes qui étaient rebelles, qui avaient des vies brisées, ruinées, perverties, corrompues par le péché, des gens qui étaient centrés sur eux-mêmes, égoïstes, que ces gens-là viennent à sa connaissance, à la connaissance du grand médecin des âmes, celui qui œuvre en tous ceux qui l'aiment. Puis c'est en anticipant sa venue, et que sa venue a accompli, son sacrifice a accompli pour en eux, c'est en anticipant ça qu'il a souffert à la croix, qu'il a versé son sang en sacrifice pour leur foi, pour la foi de nous, chacun de nous, et qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et lui, il s'est appauvri pour nous enrichir. Pour nous enrichir de quoi? De sa présence en nous. C'est lui qui est la source de tout amour. C'est lui qui est la source de joie, de paix, de patience, de douceur. C'est lui qui produit cela. Christ vit en nous. Est-ce que Christ vit en toi? Et Paul avait expérimenté ça. Christ vivait en lui. Il avait appris à mieux le connaître. Il s'est appuyé sur lui. Malgré toutes les circonstances, les difficultés qu'il a été confronté, Paul, malgré l'adversité, il a continué à servir le Seigneur dans la joie, à annoncer l'Évangile pour que d'autres aussi viennent à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Dans Habacuc 3, 16, 19, il est écrit ceci. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Quelle circonstance difficile! Toutefois, dit Habacuc, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés. En conclusion, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va terminer avec un mot de prière. Oui, notre Dieu, comme les Philippiens, nous jouissons de la même grâce, du même salut, du du même Sauveur, du même Seigneur, Jésus-Christ. Nous avons la